nous dit ou n'a pas continué ou songe nous te prend un texte et en capitaine ou bien Michel-Ange Hippolyte ensemble avec Jean-Aubert Placité écrit et puis Gary Daniel et puis avec Manuel Jeune te courir nous prend texte ça te paraît dans un document metté dehors qui est d'Haïti aux trois Amériques, hommage à Maximilien Laroche. Hommage à Nego Tebali, Tebali en créole. Mais il y a un texte nouveau qui est tellement intéressant, qui est en dedans même document ça, qui est les transmissions culturelles intergénérationnelles et transculturalisme chez Marie-Céline Ayan. Transmission culturelle intergénérationnelle et transculturalisme chez Marie-Céline Ayan. C'est par Adelina Balin qui écrit, mais il y a un rapport avec travail, si nous t'avons et Maximilien Laroche fait dans le domaine ça. Donc, nous pas le font ça. Donc, nous avons demandé doré pour jouer une musique pour nous et puis. Tout le monde n'a pas le vini avec transmission culturelle intergénérationnelle et transculturalisme chez Marie Agnan. Mais doré nan même moi. N'a pas poussé sa peau et puis n'a pas venu tout à l'heure pour ça.
Mais c'est qu'on va faire qui veut d'amour serré. Faut pas quitter les placés. Depuis qu'on a veillé, pour y avoir une main de danser. Je dis que je veux plaisir. On va être à côté. C'est qu'on va m'abséparer. Il a envie de bouger. Dans le poil, bon plaisir. Oh oh oh. Dans une balle, puis dans le musée. Pas de monde pour danser. Les boys peuvent bouger. La gamine, ça va pour demander. Les autres, Marie, Haïti chérie, ça va pour demander. Mais bon, pas. Moi, bonne soutien.
Chargez, 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 chargez,
C'est ça, on a parti attention nous, capitaine de musique, ça y a quelques textes qui ont gagné là-dedans qui sont extrêmement intéressant tout. Et appel dans musicien, ça y a eu fait effort en tout cas pour mettre quelques belles paroles, tout, il a pu utiliser le langage. Et donc, ça mène nous notre transmission culturelle intergénérationnelle et transculturalisme chez Marie Célie Ayan. C'est Adina Balin qui écrit son texte en français. Littérature et transculturalisme. Les sociétés contemporaines se caractérisent de plus en plus par leur caractère hybride, rhizomatique et complexe. Ce développement est le résultat du mouvement massif des populations, non seulement pour le travail, les études ou le loisir, mais aussi pour échapper aux conflits, à la guerre, aux conditions de vie précaires et aux catastrophes naturelles. Dans ce contexte, Thomas Nerl postule que le 21e siècle sera le siècle du migrant, en page 1. En effet, le mouvement des populations de ces derniers 40 ans s'est accompagné d'un renouvellement épistémologique et de transmission des savoirs dans les sciences sociales et dans les humanités, suscitant des approches plus inclusives qui placent les phénomènes étudiés dans des contextes plus larges et se substituent au nationalisme méthodologique sur lequel était fondée l'analyse des sociétés encadrées par la référence à l'État-nation. Ainsi, les chercheurs en études et transnationales tentent de s'éloigner du modèle linéaire de la migration en analysant l'ensemble des activités quotidiennes qui donnent naissance à des relations sociales, économiques, politiques et esthétiques entre le pays et d'origine et le ou les pays d'adoption. D'après Bach, Click, Schiller et Zanton Blanc, page 6. Ils explorent la manière dont l'appartenance à une collectivité qui s'est constituée à travers l'espace contourne les identités émanant de localités fixes et délimitées, selon Levitt et Waters en page 7. Pour sa part, Maximilien Laroche, en évoquant la notion de transculturation, selon Ortiz, souligne que les coûts et bénéfices de l'immigration pour être plus identifiables ne sont finalement évaluables qu'en termes de transculturation, c'est-à-dire dans la perspective qui fait toujours de la présence de l'étranger un facteur de changement pour tout le monde. Du bon usage des écrivains en page 22. Puissant ses origines dans les sciences sociales, le concept de transnationalisme s'utilise désormais également dans les études littéraires. Argent à pas du rail dans la Modernity at Large, traduit en anglais sous le titre « Après le colonialisme » en 2001, soutient une étude intéressante, celle que la mobilité des peuples a une influence sur le travail de l'imagination. Citons, les gens ordinaires ont entrepris de déployer la force de leur imagination dans leur pratique quotidienne. Il n'y a jamais eu autant de gens par le passé capables d'envisager comme une seule chose allant de soi le fait qu'eux-mêmes ou leurs enfants seront sans doute conduits à vivre et à travailler ailleurs que sur leur lieu de naissance. Ces peuples doivent inventer de nouveaux modes de vie à adapter à leur exil, en page 31 et 32. Donc, selon APA Durail, l'imagination nous projette dans l'avenir et nous prépare à nous exprimer dans le domaine esthétique et dans d'autres domaines, toujours en page 34. La littérature, domaine esthétique premier, est portée par l'imagination qui ne se limite pas aux frontières territoriales. À partir de son rapport référentiel à un espace ou une époque, elle pose des questions essentielles sur des notions complexes telles la culture, la mémoire, le chez-soi, l'aliénation, l'intégration, la nostalgie ou le quotidien, selon Kesson et Dassaoui en page 3. Donc le fait de vivre dans plus d'un pays, de rejoindre un ailleurs et d'élargir leur imaginaire représente une possibilité ou une nécessité pour nombre d'écrivains et écrivaines, dont l'œuvre et le parcours de vie sont souvent empreintes d'une dimension transnationale et transculturelle. Donc il convient de rappeler que l'évolution ontologique de la modernité a engendré, de concert avec la mobilité, un renouvellement épistémologique, mais aussi esthétique, tel que le souligne le sociologue du Mobility Turn, John Hurry. Donc, les études littéraires font écho à cette esthétique de la mobilité décrite par APA Durail et Hurry, en mettant en question la catégorie établie, fixe et stable d'une littérature nationale qui dicte l'appartenance à un champ ou l'exclusion de celui-ci, à un champ symbolique ou l'exclusion de celui-ci. Donc, voyons ce qu'on dit de l'écrivaine Marie Anceli Ayan, qui nous intéresse, Mounsa, même Napese, vous regardez Travali. L'écrivaine Marie Anceli Ayan. Le présent article propose d'explorer le paradigme transnational et la transmission de la mémoire dans le roman « Le livre d'Emma » de Marie Anceli Ayan, écrivaine migrante haïtienne, québécoise et canadienne. Née à Port-au-Prince en 1953, elle fuit avec sa famille la répression sous François Duvalier et arrive au Québec en 1970. Dans une entrevue, elle précise « Je m'étais juré que tant et aussi longtemps que le gouvernement des Duvalier serait en place, je ne rentrerai pas ». Selon Boucher en page 215. Quand elle se rend en Haïti dans les années 1990, elle vit un véritable choc qui la conduit à abandonner l'idée de retour à sa terre natale. À la suite du coup d'État de 1991, Agnan déclare définitivement Montréal son nouveau chez-soi. Et se l'inspire. Elle avoue à Colette Boucher: pendant des années, de par mes choix, j'avais l'impression de ne rester foncièrement qu'haïtienne. Tout à coup, j'ai vu que cet héritage québécois m'appartenait. 34 années, j'ai vécu pratiquement toute ma vie ici, en page 216. Et comme d'autres écrivains et écrivaines des Caraïbes, tels Alejo Carpentier, Maryse Condé, Yannick Laens ou encore, dans un autre contexte, Gérard Étienne, Émile Olivier et Daniela Ferrière, Marie-Céline Ayan, par son imagination et sa parole, nous livre un espace-temps qui permet de penser à travers les frontières dans un continuum entre ici et là-bas. Rappelons que le terme transnational ne se définit pas exclusivement en opposition au terme national, mais signifie plutôt la flexibilité et l'extension de ce dernier. Donc Maximilien Laroche souligne avec une justesse cette symbiose d'imaginaire et d'espace-temps qu'il met sous le signe du comparatisme. Voici comment on fait ça. Un écrivain venu de loin est forcément un comparateur, qui nous incite à en devenir un nous aussi, puisqu'il fait le pont entre ici et là-bas, entre autrefois et aujourd'hui. Les personnages qu'il nous présente nous forcent à les rapporter à ceux qui nous sont familiers, à l'image que nous projetons dans les figures de nos désirs, que nous voyons désormais mis en parallèle avec d'autres désirs, d'autres images. C'est en page 22 du bon usage des écrivains en page 22. Donc, Agnan a publié 4 romans au Québec, des recueils de poésie et de nouvelles et des livres pour la jeunesse. Elle donne voix et corps à des personnages aux identités plurielles, portant l'empreinte de plusieurs cultures et temporalités, aux exilés et à la nostalgie du retour. Affirmant son féminisme, Agnan parle à travers ses livres d'esclavage, de domination d'êtres humains par d'autres et de la situation des femmes haïtiennes, qu'elles soient restées au pays ou qu'elles appartiennent à la diaspora. Il y a un sédiment référentiel important dans son œuvre, car son expérience d'immigrante ainsi que ses activités d'interprète et de consultante auprès de la communauté haïtienne et latino-américaine du Québec lui servent de source d'inspiration, selon Boucher en page 200. La dot de Sarah en 1995, son premier roman, a été écrit à partir de récits de femmes québécoises d'origine haïtienne. Ces récits de grand-mères haïtiennes avaient d'abord été recueillis au cours d'un projet de recherche sociologique sur la situation des personnes âgées à Montréal. Ils ont ensuite été repris par l'écrivaine qui, ayant recours à sa mémoire et à ses expériences, les a utilisées comme fondement pour son roman à portée transculturelle. Donc le deuxième roman, le livre d'Emma, qui parut en 2001, met en scène une interprète du créole vers le français qui n'est plus capable de garder la distance vis-à-vis de son sujet et finit par censurer sa traduction. Son dernier roman, Femmes au temps dit Carnassier, paru en 2015, raconte, à partir des faits vécus, l'histoire de trois femmes liées par une même nuit d'horreur pendant le régime dictatorial de François Duvalier, qui a pris le pouvoir à Haïti en 1957. Donc au-delà de ces trois femmes, il y a l'histoire d'autres femmes, tantes et amies, des femmes fortes et courageuses qui se tiennent debout dans une société où la liberté d'expression est abolie et où la milice privée de Papadoc se livre à des terribles exactions sur la population civile. Formés par des spécialistes de la CIA, ceux qu'on appelle les carnassiers intimident, agressent, pillent et violent sans impunité. Les choix éditoriaux de Marie Célie Ayan s'inscrivent également dans une dynamique transnationale et transculturelle. Ses livres sont publiés dans les trois pays francophones au Québec. Mémoire d'encrier, les éditions du remue-ménage, Urtubise HMH en France, Vogue d'ailleurs et en Haïti, édition mémoire. Donc, l'œuvre d'Agnan attire beaucoup d'attention critique, nombre d'études et se penchant totalement sur la question de l'oralité, du trauma, de la mémoire du corps, du silence et de la mythologie de la Caraïbe. Selon Adamo Nissa Arias Dof Encelao, nous explorons en revanche le croisement et l'alternance entre le passé, le présent, l'ici et l'ailleurs, le pays d'origine et le pays d'accueil qui marque non seulement la trajectoire de l'auteur, mais aussi celle de ses personnages. Donc notre approche s'appuie sur les stratégies d'écriture qui mettent en lumière la portée historique et ontologique de l'existence transnationale et transculturelle. Il s'agit de démontrer comment, dans le livre d'Emma, se décline une poétique de la traversée des frontières à partir de quatre axes. Le temps, l'espace, la narration et la langue. Et bien, alors, comme ça, nous allons tourner. Nous allons continuer toujours sur l'article-là. Nous allons venir avec le livre d'Emma, Croisement spatio-temporel. Nous allons prêter avec nous, là, parce que nous allons avec vous. C'est jusqu'à 8h, c'est notre deuxième tranche. Et en bâtonnet, là, nous là. Qui donc, n'a pas gardé un passage, ou bien un article. Il écrit d'Haïti aux trois Amériques, hommage à Maximilien Laroche. Et ça n'a pas gardé là, c'est transmission culturelle internationale. Et attention, hein, transmission culturelle intergénérationnelle et transculturalisme chez Marie Célie Ayan. Marie Célie Ayan, son écrivain haïtien, nous sommes tous qui vivent dans le pays Canada, dans Québec. En nous. Ou tout n'est sous doré qu'à vous moins parti et puis n'a pas une venue à l'heure comme ça. Parler en fait tout à l'heure l'autre. On va dire nous dans l'air. 91.5 FM WMFO.
Si aller dans l'autre pays pour marcher chez la vie, mauvais temps à tout moment, une tragique maladie. Senti pour faire souffrir, aïe, comme la vie sans combat, mais moi sans bon soldat. Qu'à tous mes jours que ça cabale, chérie, ou pas besoin de paix, même si coulis à l'fait noir, mais puis t'as qu'à faire clair. Chérie, pas t'aller pour m'aider. Sans vos pieds s'habiller, mon pape s'habiller. Oh oh, ça se passe là. Faut qu'on même dire de guetter d'un pile macho qui te veut la guerre sous l'eau. Je fais toute belle promesse dans le monde du congrès. Il t'a la guerre dans la détresse. Aïe, pour qu'on ait pour tes sens, il t'en dérange. Ça cabouille tout en bas. Mauvais temps fin de passer, bon temps pas me rire. Venez pour fêter. Si un jour la paix dit pas ta vraie sentiment brété. C'est comme qui aller, mais qu'est-ce que je vais au côté pour la vie. Ça fait moins crazy.
www.wmfo.org. N'a pas fait pour jouer 8 heures. Hein? Ah ouais. Ah ouais. N'avait dit de remercier. Merci et on a dit de pas oublier parce qu'il peut continuer avec nous pour nous mener causement. Mais oui, ouais, tant de voir dans la bataille à Paris, on nous dit Doré, groupe Doré, il parle de Kembe là pour nous. On a continué avec Tex qui parlait de transmission culturelle intergénérationnelle et transculturalisme chez Marie Agnam. Un texte extrêmement intéressant. Peut-être plus devant, nous capables de garder pour eux. Si nous avons fait ça peut-être en créole. Mais nous arrivons dans le livre d'Emma. Il y en a un livre, Croisement spatio-temporel. Sur fond d'histoire d'Haïti, depuis le temps des premiers esclaves, jusqu'à présent, le livre d'Emma relate dans un récit mythique l'histoire des femmes à la peau bleue dont est issu Emma, le personnage principal. Donc la vie d'Emma, internée dans un hôpital psychiatrique à Montréal, accusée du meurtre de sa fille de 4 ans, remonte à la génération de ses aïeuls pour déterrer l'histoire traumatique des siècles de l'esclavage dans les Amériques et en nommer les retombées contemporaines. Recueillie à l'adolescence par Mati, une femme qui vivant dans un village traditionnel haïtien, Emma apprend de celle-ci l'histoire des femmes de sa lignée depuis le départ de la Guinée de Kidima, sa première ancêtre haïtienne. Parallèlement, le récit met aussi en scène le récit et migratoire d'Emma qui vit maintenant à Montréal. Il présente le récit, enfin la relation entre Emma et Flore, une femme québécoise originaire d'Haïti qui est embauchée par le docteur MacLeod comme interprète. Emma retransmet à Flore son long récit des origines afin qu'il survive pour les générations futures. La critique Christiane Ndaye souligne ce récit est un issu d'une transmission orale et ne sera fixé dans un texte écrit qu'après plusieurs générations. Récit des origines, il servira à guider les générations futures. C'est en page 59. Flore doit donc apprendre d'abord le langage oral qu'Emma a elle-même appris de celles qui ont vécu auparavant, particulièrement de Mati qui lui a transmis cette parole lors des rituels simples du quotidien. Comme elle tresse les cheveux de l'enfant, Mati tresse son récit dans une ambiance de communion où l'art du verbal naît de l'intimité des corps. C'est en page 61. La trame du livre d'Emma émerge d'une suite de ruptures. Par sa thématique, le roman s'ancre dans l'espace transculturel créé par les mouvements migratoires des Haïtiens vers le Québec pour échapper à la dictature des Duvaliers. À travers divers personnages, l'espace haïtien divisé et dilaté croise et transforme l'espace québécois qu'il rejoint. Dans le livre d'Emma, on assiste à une oscillation permanente entre Haïti et le Québec qui, à une première lecture, produit une opposition culturelle et sémantique. Cela signifie que les deux espaces représentent des valeurs quasi antithétiques, illustrent métaphoriquement l'enfer et le paradis. Montréal est associé au froid de l'hiver nordique et à la rigidité émotionnelle, à des lieux confinés, appartements, immeubles, hôpital, café, à l'environnement construit, aseptisé et exigu, à la solitude courtoise. Il, le docteur québécois, s'adressait aux gens avec une sorte de calme qui conférait à son visage l'immobilité froide de la pierre. Dans le silence de la chambre, la voix du docteur MacLeod semble se cogner au mur, au montant de métal du lit, aux vitres épaisses des fenêtres. C'est toujours en page 19 et 10. Les flocons brillent sur le trottoir et se pressent en boule, compactent sur les haies de genévrier, malmenés et raidis par le froid. Tout en marchant, je fais le décompte des femmes de mon entourage et je découvre avec une certaine angoisse, qu'elles passent souvent seules une grande partie de leur vie. En page 46. Par contre, Haïti se présente dans le signe de la nature, du désir, de la communauté, de la mémoire. Tout comme tonnerre, je
parcourais les plaines, pénétrais dans les grottes, escaladais les montagnes. J'explorais avec elle les contours sinueux des êtres. En page 108, ou encore, je bats les buissons, franchis le lit des rivières, j'escalade les collines, cueille des orchidées, aux sauvages que je rêve d'offrir à Fifi, mais que je ne piétine avant d'arriver, alors que je piétine avant d'arriver à la maison. Ce qui apparaît au premier regard comme une lecture conventionnelle, mais se révèle plus complexe au fil du temps, car les multiples personnages du roman et leurs perspectives empêchent le lecteur de cristalliser une hiérarchie au lieu de connoter un espace positivement et l'autre négativement, et de nourrir des clichés ayant créé des représentations plus nuancées. Donc les voies narratives perçoivent l'espace de manière différente et articulent des opinions divergentes, de sorte que Montréal devient aussi un lieu de sécurité, un refuge, et illustre une seconde vie possible. Donc ici, nous avons les moyens d'être indépendantes, mais là-bas, qui aurait pensé à nous? En page 116, en dépit du climat rude, des défis du quotidien et de l'indifférence des habitants, la ville du Nord se transforme à nouveau chez soi pour les personnages immigrés. En revanche, vu du Québec, l'espace d'Haïti n'incarne pas automatiquement le paradis. Au contraire, il est décrit, l'espace d'Haïti est décrit comme une terre marquée par la cruauté de l'histoire et le désespoir de son peuple. C'est à cause du sang que le pays lui-même est mort. Il est mort asphyxié et il est en train de pourrir en page 26. En effet, les protagonistes doivent faire des efforts importants pour se créer leur place au Québec et en Haïti. Flore évoque à plusieurs reprises la solitude des femmes dans la grande ville, le fait que les Québécois la perçoivent toujours comme différente, ainsi que les conditions difficiles que vivent Emma et sa mère en Haïti. Après tout, ce qui finit par l'emporter, c'est la métamorphose, cette importante transformation de l'être dont parle Maximilien Laroche, qui constitue l'essence d'une seconde chance dans les Amériques. Amérique, terre des métamorphoses. Par le rêve des hommes ou la force des choses et de l'histoire, cet espace est destiné à voir les hommes venus d'outre-mer se métamorphoser. Pour se métamorphoser donc, et non pas simplement en acquérant les objets de l'or des terres, mais en changeant d'être. Et ça, Américanité et Amérique, par Maximilien Laroche en page 98. Donc le livre d'Emma explore également le thème de la mémoire transmise par les femmes à travers l'espace et le temps. De Kidima à Rose, Mati Emma et enfin à Flore, malgré les ruptures à la fois géographiques et historiques, s'entrecroisent le passé, le présent, l'Afrique, Haïti et le Québec dans un imaginaire de solidarité et de partage transgénérationnel. Donc l'identité des femmes noires est inexécrablement liée au passé violent du colonialisme, un passé qui a longtemps été écarté et qui demeure un sujet tabou. Dans une entrevue, Ayen souligne la période de l'esclavage dans les romans haïtiens, contrairement aux Antilles françaises, est tout à fait absente, sinon refoulée. C'est une période tabou. Au fait, on peut toujours prétendre que Haïti a tant d'autres problèmes immédiats, urgents. La littérature se cantonne sans doute plus dans la ludique ou dans l'urgent, dans le politiquement immédiat, le quotidien. Mais pour moi, il est important non pas de cultiver cette mémoire, mais d'utiliser l'éclairage qu'elle nous transmet. C'est ce que j'ai voulu faire dans le livre d'Emma. Comprendre le présent d'Emma et à partir de son passé. Selon Johnny en page 388. Donc Jean-Marc Moura évoque les l'impossibilité, c'est monsieur Jean-Marc Morat, et qui évoque l'impossibilité pour les ex-colonisés de rompre avec ce passé violent d'esclavage. L'identité post-coloniale s'est construite autour de quoi? De cet héritage d'humiliation, d'aliénation et de souffrance. Morat note que nous sommes des produits de cette époque plutôt que les successeurs nettement séparés d'elle, en page 3. Dans le livre d'Emma, Marty insiste sur le caractère irréparable de la violence et du trauma. J'essaie parfois de me consoler en me disant que cette époque était un accident. Mais un accident, soit on s'en tire, soit on en meurt. Nous ne sommes pas mortes, c'est la vérité, mais nous voilà à jamais éclopés, en page 135. Donc pensons-en un instant à l'époque, à l'espace physique et symbolique du livre dans le livre d'Emma. Ce livre est un véritable livre d'histoire qui raconte l'existence des femmes noires, contrairement au livre d'histoire écrit par les blancs. Emma accuse Flore d'être d'une assimilée parce qu'elle ne questionne pas l'histoire qui lui a été enseignée. Tu dois tout avoir appris dans ces livres qu'ils ont eux-mêmes écrits pour tout te conter ta propre histoire, en page 22. Pour Emma, les livres des blancs ne fournissent aucune information sur la vérité de la condition de la femme noire. J'ai fouillé dans les grands livres, j'ai tant cherché. Flore, si tu savais tout ce que j'ai pu lire, des années entières, j'ai cherché pour découvrir la source de l'horreur de cette haine. Les livres me rendaient folle, crois-moi, en page 117. Ainsi, le livre d'Emma catalyse une quête des origines, du malheur des femmes noires. Vous êtes avec nous là, alors c'est nous pas le finir avec écoutez dans les récits dans la langue dans le livre, le livre des mains. Songez ce travail à Kimoun, ce travail à Marie Célie Agnami, ces transmissions culturelles intergénérationnelles et les trans et le transculturalisme chez Marie Agnan que nous gagnons Adina Balin a présenté pour nous là. C'est dans un livre qui était sorti de li on passe à côté au côté hommage pour Maximilien Laroche. Nous sommes sur Canoë lié dans bagaille là. On entend des Kembe là avec Doré et puis n'a tout retourner pour nous prendre reste article là. On entend des Doré, mais Doré.
Chéri bagaille, vite, vite, mais fort tout qui me ma foi la vie a connu, je suis arrivé, tête en bas. Et comme bon midi, pour toi la vie, vite, tout bas. Mais ça fort tout qui me pour pas commettre bêtises, car les gosses pour te surprise. Et pas mes connais qui confèrent toute journée. Imaginez comment il va faire manger de pain. Et pourtant il y a une paix, de qui va l'honnêteté. Souvent il réussit, sans faire flatterie. Yeah.
www.mfo.org. Mais oui, nous retournons sous Emma. Mais oui, tu as le concernant de Bébé pour nous. Le livre d'Emma, récit et langue du point de vue narratologique. Il est à noter que la mise en scène de la traversée d'un pays à l'autre influe sur la structure narrative du livre d'Emma. À l'instar de la dichotomie qui oppose le pays d'accueil et le pays natal sur les plans symboliques et sémantiques au début du roman, mais s'établit aussi une dualité dans la narration. Donc le livre commence par placer Montréal en tant qu'espace principal, celui du présent, le lieu où se tisse le récit de Flore, alors qu'Haïti ne représente qu'un espace secondaire, celui du passé, animé par les métarécits d'Emma. Or, cette hiérarchie narratologique s'estompe au fil des pages. La prolifération des métarécits de plus en plus longs et remplis de détails, là, remontant à l'ancêtre climat, catalyse une dynamique qui relègue le récit premier à l'arrière-plan. En outre, la narration s'étend aussi au-delà de la chambre exiguë d'hôpital à Montréal, en l'ouvrant en plein air et aux différents territoires de la Caraïbe et de l'Atlantique noir. Emma déplie ses récits dans Haïti de différentes époques et partage ses opinions sur l'esclavage, le marronnage, les plantations, la situation des femmes, la transmission d'histoires et de coutumes entre les générations. Elle raconte la capture de son ancêtre Kilima en Afrique et rapporte ses études en France, plus particulièrement à Bordeaux, où elle a préparé une thèse que le jury a finalement rejetée. Au fur et à mesure que les récits d'Emma s'enchevêtrent avec ceux de Flore et suspend de ces derniers, on assiste au croisement des espaces haïtiens et québécois. La différence entre espace principal et espace secondaire se dissout car l'alternance des voix brouille les frontières marquées au départ. Simultanément, la narration progresse d'un état de fragmentation à une impression de cohérence, de continuum. La parole révoltée d'Emma et ses multiples récits morcelés dont figurent d'autant de pièces d'un puzzle qui se mettent en place petit à petit. C'est le rôle de Flore, l'interprète à la recherche de la vérité sur le meurtre de l'enfant d'Emma, déposer un ordre de créer des liens susceptibles de dévoiler un sens. En fait, plus la narration avance, plus elle gagne en profondeur et en densité, puisque le récit de Flore donne lieu à celui d'Emma qui, pour sa part, convoque le récit de Mati qui raconte la vie de Kilima.
la dilatation du temps et de l'espace anime non seulement l'intrigue, mais également la structure narrative. En tuant sa fille, Emma rappelle le geste meurtrier de la femme esclave qui a enlevé la vie de ses enfants afin de leur épargner une vie de soumission et de misère évoquée dans le livre d'Emma. De ces gestes qu'elle faisait pour mettre leurs enfants à l'abri des garous qui les étouffaient dans les cales négriers et dans les champs de canne. En page 136 et 137, le topos de la mère qui tue son enfant remonte à l'Antiquité. La tragédie de Médée, telle qu'elle est racontée par Euripide, c'est celle d'une femme abandonnée qui se venge de son époux en tuant leurs enfants pour ensuite partir commencer une nouvelle vie. Pour les Amériques, Zilla Byrne, dans son article de Nouveau-Né, Mythe et contre-mythe dans la littérature des Amériques, montre comment l'infanticide de Médée fait figure de transgression de la soumission de la femme en faisant éclater l'utopie du mal tout-puissant. Dans Médée, protéiforme, Marie Carrière souligne que par une reprise transculturelle de Médée, l'infanticide qu'aurait commis Emma la transforme en une Médée postcoloniale. Carrière lui-même note que tel recours à l'hégémonie d'un grand récit occidental peut paraître contre-productif en page 142. Toutefois, il met bien en lumière les aspects du mythe de Médée qui résonne dans un contexte postcolonial, notamment sa différence entre quoi en tant que femme étrangère, cultide qui vivait parmi les Grecs, Emma, s'en représente pas moins une étrangère et de ce fait une figure postcoloniale dans la mesure où la reprise d'un mythe ou d'une légende pour l'investir de nouvelles significations est une stratégie postcoloniale importante. Jean-Marc Mourat a souligné la nature fondamentalement transgressive et constante testataire d'une culture qui se propose de remettre en question, voire de déconstruire les codes européens. De même pour le contexte des Amériques, Patrick Imbert, dans les histoires qui nous sont racontées, souligne le rôle marquant des récits dans le renversement des rapports de pouvoir historique et dans l'accompagnement de l'individu vers une réactualisation de l'identité et des liens avec les autres. La réappropriation de la mémoire des victimes face à l'histoire officielle qui exclut mais se joint à une réévaluation des rapports de pouvoir dans une relation individu-groupe, nouvelle affirmant d'une part que le groupe dominé a des droits et d'autre part que l'individu s'appartient, en page 1. Donc si Emma incarne une longue histoire de domination et de distance, elle peut être vue aussi comme une figure qui réapproprie sa mémoire et celle de ses ancêtres afin de subvertir l'héritage colonial et d'accéder à une identité renouvelée. Donc la peau à l'envers de fleurs et de sel presque bleu d'Emma souligne le fait que les deux femmes, malgré leur héritage culturel partagé, ont vécu des réalités bien distinctes l'une de l'autre. Par ailleurs, l'évolution du rapport entre Emma et Flore en dit long sur ce qui représente cette histoire dans le contexte contemporain de la migration. Répugnance et peur deviennent fascination, ce qui petit à petit se transforme en désir de protéger. Le rapport au départ tendu entre les deux femmes se métamorphose en affection. Au début, Emma est ouvertement hostile envers Flore, mais comme si elle pouvait voir de son regard perçant un mal dont Flore n'était même pas consciente. En Emma saisit l'état d'innocence et d'ignorance de son interlocutrice en matière d'histoire. Ignorante, va tu ne sais rien de la vraie histoire. En page 22, pour la première fois, Flore se voit poussée à réfléchir à son rapport avec son propre corps. Je me sens prise au piège et je dois m'avouer que je ne connais pas les vraies réponses puisque je ne me suis jamais posé les vraies questions. Croyant sans doute que les questions non formulées n'existent pas, je me contente de m'entendre dire assez souvent en convenant que j'ai la couleur de peau rêvée, juste à point, ni trop pâle, ni trop foncée. C'est comme cela qu'on nous aime, comme le miel et acclame certains, comme un rayon de soleil, pareil au beau pain belge, juste à point. J'accueillais ces paroles avec quelquefois une moue de coquetterie ou un brin d'agacement en page 36. Donc il est évident qu'une connaissance en germe se développe et pousse sous la tutelle d'Emma qui nourrit la conscience de son interlocutrice. Flore commence ainsi à s'appartenir pour reprendre un verre et à devenir un sujet autonome. Enfin, il convient de nous pencher brièvement sur la fonction de la langue dans le livre d'Emma, car la dynamique transculturelle Haïti-Québec est illustrée ici par un jeu subtil entre le créole et le français. Emma, internée dans un hôpital psychiatrique de Montréal pour avoir tué son enfant, refuse de parler français et de communiquer. Par conséquent, avec son médecin, le docteur MacLeod, qui essaie d'établir un diagnostic, Flore, l'interprète, est alors embauchée pour traduire les récits d'Emma livrés dans une langue maternelle. Donc, Ayan ne révèle pas les mots originels d'Emma dans le livre. Ces mots nous parviennent à travers un filtre. Le roman écrit en français ne fait que quoi? Ne fait que sous-entendre l'emploi du créole par Emma et la narratrice. Convaincu que le médecin québécois a des préjugés au sujet d'Emma et qu'il ne comprendra pas sa peine et ses angoisses, Flore décide de mettre des informations et de lui proposer une traduction infidèle. Elle dissimule la traduction, une partie des propos d'Emma, pour que le médecin ne parvienne pas à s'approprier l'histoire de sa patiente. Donc Flore déforme les propos d'Emma à sa guise et finit par confronter la thèse de l'accusation. Flore avoue, je ne suis plus une simple interprète en page 18 et poursuit. Je me surprends alors à penser comme Emma avec les mêmes mots. Tu ne tireras rien de moi non plus, petit docteur. Pourquoi je devrais te faire confiance? Ce n'est pas à moi de te fournir des armes. J'ai bien compris ton jeu. Tu fais semblant de vouloir aider Emma, mais tu travailles avec la police. En page 63, alors, que le médecin reçoit une traduction partielle de la part de Plor, nous, lecteurs et lectrices, avons accès à toutes les paroles d'Emma en français. Il est intéressant de noter que dans le roman, s'entrecroisent trois versions du récit d'Emma, deux implicites, l'original en créole et la traduction pour le médecin, et une explicite, la traduction livrée aux lecteurs, aux lectrices. Sous ce temps de l'enjeu de la langue, voir le processus de traduction dépasse la fiction, pour même proprement dite, pour rejoindre le monde extratextuel du lectorat. Vous êtes là, m'a venu avec conclusion, oui là. Et bien, nous checké avec, et nous finissons dans des restes qui sont là. C'est doré, qui a sur les oreilles.